Avec James, nous avons choisi d'entendre maintenant, pour ce jour, un texte du prophète Ésaïe qui annonce le salut que Dieu nous donne. Ésaïe présente sa foi, sa pensée, son espérance comme un conte de fées, finalement, comme un conte avec un héros qui vient, puis comme une fable avec un loup qui devient l'ami d'un agneau. Mais rassurez-vous, Ésaïe ne nous prend pas pour des débiles. Il nous fait confiance pour comprendre de quoi il parle, bien sûr. Alors c'est au chapitre 11 du livre du prophète Ésaïe, les premiers versets. Un rameau sortira du vieux tronc d'Ésaïe, et la nouvelle pousse fructifiera hors de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de bon sens et de force, esprit de connaissance et de respect de l'Éternel. Oui, il respirera dans le respect de l'Éternel. Il ne jugera pas selon l'apparence, il n'arbitrera pas sur un simple oui-dire, mais il jugera les pauvres avec justice. Avec droiture, il sera l'arbitre des malheureux de la terre. Il frappera la terre du sceptre de sa parole, et du souffle de ses lèvres, il fera disparaître la méchanceté. La justice sera comme une ceinture autour de sa taille, et la fidélité sera la ceinture de ses hanches. Alors le loup habitera avec l'agneau, la panthère reposera avec le chevreau, le veau, le lionceau, le bétail qu'on engraisse seront tous ensemble, et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage et leurs petits habiteront dans le même lit. Et le lion et le bœuf mangeront de la paille. Le nourrisson pourra tranquillement se promener sur le nid de la vipère et le bébé pourra mettre sa main dans le trou de l'aspic sans qu'il lui soit fait du mal. Il ne sera fait ni tort ni dommage sur toute la montagne sainte. Car la connaissance de l'Éternel remplira la terre entière, à peu près comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Et alors, en ce jour, la racine du tronc d'Isaïe se dressera comme une bannière pour rassembler les peuples. Elle sera recherchée par les nations et son repos sera la gloire. Ô Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Et puisqu'il est question de l'Esprit de Dieu, je vous propose de chanter le cantique 163, alors un peu par avance, parce que c'est un cantique de Pentecôte, mais en fait, bien sûr, c'est de tout cela dont on parle aussi dans la bonne nouvelle de Noël. Viens, ô Créateur de nos âmes, Esprit Saint, Dieu de vérité. Je vous propose de vous lever pour chanter donc ce cantique 163 dans Louange et prière, le petit recueil.
Thank you.
Oui, Seigneur, merci de venir ressusciter nos vies, de les rendre claires et belles sous la lumière de l'Évangile. Que ta parole nous touche au plus profond de nous-mêmes, mettant chaleur, paix, joie dans notre cœur. Que ton amour emporte nos volontés mauvaises ou trop faibles. Que ta paix chasse en nous les troubles et les hésitations. Que ta joie nous accompagne sur nos chemins, même quand ils sont semés d'obstacles, mais aussi quand ils sont pleins de merveilles. Car tu es le Dieu de la vie et tu prends soin de chacun de tes enfants. Nous sommes parfois un peu déçus par ce monde qui est comme une jungle où les loups dévorent les agneaux, un monde où les ours, les lions sauvages agressent les plus faibles, les malheureux, et même parfois des peuples entiers de pauvres gens. Oui, nous sommes parfois un peu déçus de nous-mêmes parce que cette violence du monde, si nous voulons bien être un peu lucides et honnêtes une seconde, cette violence du monde, nous la reconnaissons en fait, en nous-mêmes. Ce texte d'Ésaïe, mais aussi l'évangile de Noël, nous disent que Dieu a pour projet de nous sauver. Que Dieu est auprès de nous pour nous sauver. Dieu ne nous rejette pas, il ne rejette ni le loup qui est en nous, ni l'agneau qui est en nous. L'un comme l'autre sont des créatures magnifiques dans leur genre, car effectivement il y a une différence. Dieu ne vient pas pour détruire ce monde, mais pour le sauver. Il fait tout pour que le méchant progresse. Dieu ne se moque pas de ceux qui ont besoin de tendresse. Il ne méprise pas l'incapable que tous méprisent. Dieu vient pour réconcilier l'agneau et le loup, la panthère et le veau. Il vient pour que le puissant devienne capable d'aider le faible, pour que le fort soit au service de ce qui est beau et bon, de ce qui est juste. Que le fort et le faible ensemble puisse créer une vie nouvelle, une vie bonne, une vie de paix et de bonheur. Il vient pour nous aider à réconcilier toutes les dimensions de notre être, pour réconcilier notre force, pour réconcilier nos blessures et notre soif de reconnaissance, nos muscles et nos élans spirituels, réconcilier notre action et notre contemplation. Alors, nous sommes parfois inquiets pour l'avenir. Certains se sentent parfois comme dans une impasse, voués à la mort dans un monde usé, pollué, fini. Eh bien non, nous dit Dieu. Même d'une vieille souche pourrie, et nous en sommes loin bien sûr, il peut faire sortir une nouvelle pousse. Quand l'Esprit nous anime, nous sommes ce frais rameau plein de vitalité, plein de bonté, plein d'avenir. Vous, individuellement, même si vous êtes petit, pauvre, même si vous ne savez pas bien lire, même si vous avez des penchants de loup féroce ou de sanglier furieux ou d'agneau qui reste là à bêler tranquillement, Eh bien, vous êtes la partie vivante du monde. Vous êtes son avenir, vous êtes la joie de Dieu. Vous êtes même, vous pouvez être son bras puissant, sa bouche, son cœur, en étant avec lui en tout cas. En Jésus de Nazareth, nous comprenons ce que la promesse d'Ésaïe signifie et nous comprenons qu'il ne faut pas la lire au futur, mais au présent. C'est le salut dont parle ce texte que nous fêtons à Noël. Mais que fêtons-nous en fait à Noël ? Est-ce que nous fêtons la venue d'un surhomme comme ce héros de la mythologie grecque, plein d'une force extraordinaire qu'est Hercule ? Ou alors plein de sagesse et d'intelligence, comme le sont d'autres héros? Non, ce n'est pas cela que nous fêtons en Jésus, ce n'est pas un surhomme, ce n'est pas un dieu, ce n'est pas un demi-dieu qui serait venu, qui nous aurait rendu visite, ce n'est pas cela que nous fêtons. Ce que nous fêtons en Jésus de Nazareth, c'est qu'en lui, le salut de l'Éternel a été donné aux humains, aux humains de toute nation, de tout peuple, de toute génération. Que ce salut nous a été donné, qu'il n'y a plus qu'à tendre la main, l'esprit et le cœur pour en vivre, c'est cela que nous chantons à Noël. C'est cela qui nous est donné pour que nous devenions comme un frère rameau qui deviendra un bel arbre plein de vitalité et plein de fruits. Dans le livre du prophète Ésaïe, quelques pages un peu plus en avant, un peu plus haut, avant ce passage que nous lisons aujourd'hui, il y a une prophétie qui annonce la venue du Messie que l'Éternel donne pour sauver l'humanité. Et Ésaïe propose qu'on appelle ce Messie, qu'on l'appelle Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Alors c'est vrai qu'en Christ, Dieu est vraiment avec nous, mais ce terme d'Emmanuel est ambigu dans un certain sens. Certains auraient pu penser, si on avait donné ce nom d'Emmanuel à Jésus, certains auraient pu penser qu'avec le Christ, eh bien, ce serait Dieu qui marcherait sur les routes poussiéreuses d'Israël, qu'il passerait dans les villages et sur les chemins. Eh bien, la Bible n'a jamais dit ça. Dieu est Dieu. La Bible n'a jamais dit, à mon avis, que Jésus serait un surhomme, et encore moins qu'il serait Dieu, ni même un demi-dieu, comme dans cette mythologie grecque qui raconte des histoires où les dieux font des enfants avec les femmes humaines. Non, ce n'est pas cela que dit la Bible, à mon avis. Ce n'est pas de cela dont parle Ésaïe dans sa prophétie. Et ce n'est pas ce genre de conte pour mythologie que nous célébrons à Noël. Ce que Dieu nous donne en Jésus, ce que nous fêtons à Noël, est bien plus intéressant pour nous que ces contes mythologiques. Car ce que nous fêtons à Noël, cela nous concerne bien plus directement qu'un conte à dormir debout. Ce qui nous est donné en Jésus, c'est le salut de l'Éternel. Le salut, oui, ce salut qui nous est donné en Jésus. C'est pourquoi Jésus n'a finalement pas été appelé Emmanuel comme il était annoncé dans Ésaïe. Il n'a pas été appelé Dieu parmi nous, mais il a été appelé Jésus, c'est-à-dire le salut de l'Éternel. Jésus n'est pas Dieu fait homme, la Bible n'a jamais dit ça, à mon avis. Jésus, c'est le salut de Dieu donné au monde. Jésus, c'est la parole de Dieu, c'est-à-dire le bon projet de Dieu pour le monde. Le bon projet de Dieu qui est fait chair en Jésus, nous dit l'Évangile selon Jean. C'est le salut de Dieu qui illumine chaque humain, ajoute Jean, donnant le pouvoir à chacun, par la foi, de devenir lui-même enfant de Dieu. De qui donc parle Ésaïe quand il annonce une personne extraordinaire, une personne pleine de sagesse et de force, pleine de bon sens, bourrée de dons, de capacités à faire le bien autour d'elle? Eh bien, c'est de nous, bien sûr. Il parle de chaque être humain et donc de vous-même en tout premier lieu. L'Évangile, c'est une bonne nouvelle pour chacun. Ce n'est pas un merveilleux petit conte de Noël avec un Dieu qui descend rendre visite aux hommes comme le Père Noël, paraît-il, mais qui y croit encore? descend avec ses reines visiter les cheminées, descendre les cheminées, je ne sais plus quoi. En Jésus, ce qui devient merveilleux, c'est nous-mêmes. C'est la vie en ce monde qui devient enthousiasmante, nous donnant envie de faire 1000 bons projets. C'est notre cœur et notre tête qui deviennent merveilleux, car ils sont emplis de 1000 bons sentiments pour ceux que nous rencontrons, que nous sommes alors pleins d'espérance pour notre vie et que alors l'obscurité, les ténèbres, le désespoir sont comme chassés. Et ce qui devient merveilleux, ce n'est pas une sorte de surhomme qui viendrait, on ne sait comment, sur les cheminées peut-être, avec des rênes. Non, ce qui devient merveilleux, c'est nos bouches qui parlent alors pour faire vivre et non pour tuer. Nos bras qui se tendent et nos mains qui s'ouvrent, c'est cela, le salut de l'Éternel. La merveille que l'Éternel annonce, c'est une merveille qui est dans notre vie. Alors, nous dit Ésaïe, un rameau sortira du vieux tronc d'Isaïe. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de bon sens et de force, esprit de foi en l'Éternel. Alors c'est de nous qu'Ésaïe parle avec cette image d'un frère rameau plein de vie qui sort d'une vieille souche pourrie. Un frère rameau plein de promesses et de vie. C'est de nous qu'Ésaïe parle quand il évoque une personne sur qui repose vraiment l'Esprit de l'Éternel. Un esprit plein de sagesse et d'intelligence, plein de bon sens et de force et de foi. C'est de nous qu'Ésaïe parle, bien sûr, quand il raconte que le loup et l'agneau feront équipe ensemble. Et c'est de nous qu'il est question. Et c'est cela que le Christ montre, effectivement. C'est cette promesse qu'il réalise, qu'il montre au monde. C'est cela qu'il rend possible en montrant ce que donne le projet de Dieu quand enfin il s'incarne dans la vie humaine. Bien entendu, ce n'est pas pour demain que les lions brouteront de l'herbe et qu'ils seront amis des gazelles, ça c'est clair. Mais Ésaïe n'est pas un imbécile, il n'y a pas cru une seconde que ça arriverait. Et il n'a pas pensé que l'on lirait au pied de la lettre l'histoire qu'il raconte. C'est comme si pour les fables de La Fontaine, on essayait de nous faire croire qu'il existe vraiment des renards qui parlent à des corbeaux qui ont un camembert dans la bouche pour espérer que le corbeau ouvrira la bouche et que le camembert tombera. On n'est vraiment pas obligé de lire la Bible comme ça. Alors on peut la lire comme ça aussi, bien sûr. Mais Jésus n'a pas cherché à évangéliser les loups pour qu'ils deviennent gentils avec les agneaux. Et Jésus n'était pas non plus un loup qui s'était tout d'un coup transformé en agneau, comme on le voit dans les films de vampires ou dans je ne sais quoi. Le loup que le Christ convertit, le loup c'est une part de nous-mêmes. Cette vieille souche d'arbre qui reprend vie, eh bien c'est notre cœur trop sec, c'est notre monde, c'est notre vie quand elle a perdu sens, perdu espoir, quand elle se sent enfermée, prisonnière de la mort. Alors Jésus n'est pas un héros de mythologie grecque. Il nous montre l'exemple en incarnant le salut de Dieu. Alors si on fait de Jésus un dieu, alors l'histoire est belle, comme ces histoires des dieux qui visitent les hommes dans la mythologie grecque. Mais quel rapport y aurait-il alors entre Jésus et nous, finalement ? Au contraire, Jésus nous montre que le salut de Dieu n'est pas un événement auquel on assisterait, si vous voulez. On assisterait en disant « Oh, comme c'est Dieu, hein, comme c'est beau un Dieu qui se promène sur les routes humaines ». Non, Jésus nous montre au contraire que le salut de Dieu, on n'y assiste pas comme un spectateur à un spectacle magnifique, une comédie musicale, mais que ce salut de Dieu est une conversion de notre être, de notre propre être qui nous est donné par Dieu, qui nous est proposé par Dieu. Le salut de Dieu est vécu par Jésus-Christ pour que nous le vivions nous-mêmes. Ce salut de Dieu est donné en Christ pour que ce salut s'incarne de trois façons essentielles, nous dit le prophète Ésaïe avec ses images un peu fleuries, si vous voulez, dans son conte qu'il nous propose, dans cette fable. Alors, ce salut de Dieu s'incarne en Jésus-Christ et veut s'incarner en nous-mêmes aussi de trois façons. La première façon, c'est une des capacités extraordinaires qui nous sont données par Dieu. Un rameau sortira du tronc d'Isaïe et une pousse nouvelle naîtra de ses racines. Par ce salut, nous dit Isaïe, nous sommes encore nous-mêmes. Nous sommes encore issus d'une famille comme David descend d'Isaïe, son grand-père. Nous sommes héritiers d'une culture et d'une histoire qui sont la nôtre. Et pourtant, l'Esprit de Dieu nous ouvre à des dons surnaturels, bien au-dessus de ce que nous aurions été capables avant, comme simplement conséquence d'un passé. La souche existe, elle est solide, mais elle ne progresse pas, elle est figée, elle est comme morte. Le petit rameau, lui, est vivant, il grandit, il progresse, il pousse, il est une promesse. Isaïe abandonne alors la métaphore de l'arbre pour mieux décrire ce que nous pouvons attendre concrètement de ce salut de Dieu comme pouvoir surnaturel. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence. Alors le projet de Dieu, c'est de nous donner de savoir la vraie valeur des choses, des gens et de la vie. Le projet de Dieu, c'est de nous donner de voir d'où tout cela vient et où cela peut nous mener, de voir ce qui est invisible et que seul le cœur peut voir, ce que seule l'espérance peut voir. C'est un esprit de bon sens et de force, ajoute Isaïe. Le projet de Dieu, et nous le voyons se réaliser en Christ, le projet de Dieu, c'est de nous donner du bon sens. C'est là une extraordinaire qualité, en fait, qui rend capable de réfléchir par nous-mêmes et de bien décider. Dieu veut nous donner aussi un esprit de force qui nous permet d'abord de nous dominer nous-mêmes, c'est-à-dire d'arriver à réaliser un peu ce que nous avons décidé, ce que nous avons projeté. Mais encore, à surmonter le mal qui est en nous, le mal que nous rencontrons aussi sur notre route, de le surmonter ce mal par le bien, un peu comme Dieu cherche à le faire dans le monde et en nous-mêmes. Alors cet esprit, c'est un esprit de connaissance et de foi en l'Éternel, pour que nous fassions équipe, lui et nous tous ensemble. Ce salut de l'Éternel, nous pouvons le vivre alors, nous dit Isaïe, et c'est la deuxième façon de vivre le salut que l'Éternel nous offre. Isaïe vient de nous dire que Dieu nous donne d'être génial, dans une certaine mesure bien sûr, qu'il nous donne d'être capable de choses extraordinaires, pas comme un simple sanglier furieux, quoi. Nous avons vu en Christ que cette promesse n'est pas seulement une promesse, mais qu'elle se réalise aujourd'hui, dans notre vie, dans notre chair mortelle, faible et tout ce qu'on veut, mais oui, qu'elle se réalise en nous. Heureusement parce que, comme le dit Isaïe, heureusement parce que c'est maintenant que les pauvres ont besoin de justice. C'est aujourd'hui que ceux qui pleurent ont besoin d'être consolés, que ceux qui ont faim ont besoin d'être nourris. C'est aujourd'hui que ce salut est donné. Donc Dieu vient pour nous sauver aujourd'hui, pour que nous ne jugions plus seulement selon l'apparence, mais avec le cœur. Que nous ne jugions plus sur de simples ragots, mais avec bienveillance et espérance. Pour que nous renoncions à la méchanceté, que nous fassions même obstacle à la méchanceté et aux mauvaises humeurs. Que notre force soit dans la fidélité, qu'elle soit dans la foi, dans le bon cœur, dans la parole, et non dans les coups de bâton, non dans la méchanceté, non dans l'écrasant. Oui, qu'à l'image de Dieu, qu'à l'image du Christ, nous ne fassions ni tort ni dommage dans ce monde que Dieu aime, et surtout pas aux humains qu'il adore tendrement. Ce salut de l'Éternel, nous dit alors Isaïe, il s'incarne dans une réconciliation de notre être tout entier et une réconciliation de l'humanité. Et c'est pour exprimer cela que Isaïe revient à un langage symbolique, qu'il revient un peu sur un langage que peut-être La Fontaine va imiter dans ses fables, le loup habitera avec l'agneau et un petit enfant les conduira. Alors oui, l'idéal, c'est que notre force, notre férocité et notre douceur, notre besoin de tendresse, tout cela en nous soit réconcilié, que toutes les dimensions de notre être soient gouvernées par l'enfant de Dieu qui est en nous, que notre vie tout entière soit comme gouvernée par cette dimension de notre humanité qui a l'humilité de reconnaître qu'elle a besoin de grandir, qu'elle a soif de tendresse, qu'elle a soif de lait et de soins, de conseils qui viennent de Dieu pour pouvoir grandir et devenir un peu meilleur. Et c'est pour se réjouir de cet enfant-là que la Bible prend souvent l'apparence d'un conte, pour que nous sachions le lire, cette promesse de Dieu, que nous sachions la lire, eh bien, en s'appropriant toutes ces paroles, que cela colle avec les circonstances concrètes de notre vie, car c'est ainsi, eh bien oui, que la Bible nous parle du salut de Dieu. La réalité de ce salut est bien plus belle à vivre que le plus beau des contes. Amen. Thank you.